C'est juste un chant pour les oubliés, les opprimés, ceux qu'on a délaissés.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour son émission mensuelle. Et oui, même le 30 décembre, entre les fêtes de Noël et les fêtes du Nouvel An.
Le 29.
Ah, décidément, j'en veux au 30 aujourd'hui, effectivement. Je crois qu'on est mardi 30. On est mardi 29, donc coincé entre Noël et le jour de l'An. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes, d'ailleurs c'est le moment ou jamais, et donc on est toujours présent à l'antenne. Comme tous les mois, il y a avec moi autour du micro Sabine.
Bonsoir.
Il y a Patrice.
Bonsoir. Et puis naturellement, votre animateur préféré, Didier.
Je vais rougir. Donc voilà. Et ce soir à la technique, c'est pas Ronan parce qu'il est parti en vacances en Bretagne, mais c'est... L'animateur du laboratoire qui est arrivé une heure en avance pour nous donner la main et pour nous assurer la technique. C'est très sympa de sa part, effectivement. Donc, il est derrière le micro et il nous écoutera. Il verra à quoi ça ressemble une émission d'Amnesty International à Principe Actif. Mais je pense qu'il en a une petite idée quand même. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, pas mal de sujets, beaucoup de sujets sur la table. Et on va vous parler de la COP21, c'était les droits humains. L'environnement et les droits humains, c'était un sujet d'actualité il n'y a pas si longtemps. Et donc Amnesty a des choses intéressantes à dire par rapport à ça. C'est Patrice qui vous en parlera. Sabine vous parlera aussi de à quoi ça sert de signer, de nous soutenir, de participer à nos actions. Dans quel but et pour obtenir quoi? Donc elle va vous en parler et on va vous faire un petit résumé de toute une série de 12 bonnes nouvelles qu'on a égrenées tout au long de l'année 2015, puisqu'on est un petit peu au bilan de fin d'année. Donc voilà, 12 bonnes nouvelles. À quoi servent vos signatures? Entre autres, ces 12 bonnes nouvelles-là. Donc on vous en saurait plus tout à l'heure. Moi, je vais vous parler également, on va revenir sur un dossier qu'on a déjà abordé, mais là avec un cas précis, puisqu'on défend au niveau d'Amnesty Évreux depuis le mois d'octobre un prisonnier russe qui s'appelle Sergueï Krivov, qui est enfermé actuellement, qui a 3 ans de prison pour avoir participé à des manifestations pacifiques contre Poutine. Et donc, on le défend. On va vous parler de son cas tout à l'heure. On va vous demander également de participer éventuellement à son soutien si l'envie vous en dit. Et donc voilà, quelques et puis si on a encore du temps, mais ce sera pas sûr, encore éventuellement d'autres choses. Bon, moi en guise d'intro, je vais vous parler très rapidement de cinéma. J'ai vu un film la semaine dernière. Je suis allé voir, j'étais un peu dubitatif, mais je n'ai pas regretté du tout. Je suis allé voir le dernier film de Spielberg qui s'appelle Le Pont des Espions. Et bon, résumé, je ne vais pas vous raconter le film, allez-y, il passe encore à Évreux, allez-y si vous voulez, mais ça parle en fait d'un échange de ce tiré de fait réel à la fin des années 50, au moment de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Pour les jeunes qui sont nés après, replongez-vous dans les livres d'histoire si vous n'êtes pas trop au courant et vous en saurez plus. Donc au moment de la guerre froide, il y a eu un échange de prisonniers, enfin il y en a eu plusieurs, mais ça c'est un échange de prisonniers entre un espion russe qui était emprisonné aux États-Unis et un espion américain qui était emprisonné en Union soviétique. Donc ils ont négocié pour obtenir l'échange de prisonniers. Et donc, c'est le thème du film. Alors, c'est un thriller, mais au fur et à mesure, qui se regarde très agréablement, mais au fur et à mesure de l'action, Steven Spielberg a glissé quelques grandes idées qui recoupent tout à fait, en fait, ce qu'on vous parle au cours des émissions. Donc, ça m'a fait penser à vous et à Amnesty. Quelques grandes idées. La première, c'est au début du film, il y a une entrevue entre le futur avocat qui va défendre, commis d'office, qui va défendre le prisonnier russe aux États-Unis, qui est d'office condamné en fait à la chaise électrique avant même d'être jugé, puisque c'est haute trahison par rapport à l'État des États-Unis. Et en fait, il a un entretien avec un représentant de la CIA qui essaye de convaincre cet avocat que c'est même pas la peine de le défendre, que les dés sont pipés et que de toute façon, ce qu'il lui dit, c'est qu'on s'en fout un peu du règlement, c'est-à-dire en fait de la Constitution, du droit à la justice, enfin, etc. Et donc, son avocat qui est joué par Tom Hanks dans le film, qui lui répond, et j'ai trouvé la remarque très juste, qui le regarde et qui lui dit « Vous vous appelez, alors je ne sais plus son nom, vous vous appelez par exemple Hoffman, donc vous devez être d'origine allemande au niveau de votre famille. » Le gars lui dit « Oui, effectivement, mes grands-parents étaient allemands. » Et lui, il lui dit « Moi, mes grands-parents étaient irlandais. » Donc, on est américains tous les deux à l'heure actuelle. Et il dit « En fait, ce qui nous rassemble là, en ce moment, ce n'est pas le fait de s'asseoir sur les grands règlements, c'est le fait de défendre effectivement une certaine notion de la justice, de la démocratie et de la constitution américaine. » Et ce n'est pas du tout de défendre des choses abstraites comme ça, comme un territoire, un État ou des choses qu'on ne maîtrise pas bien. Mais effectivement, ce qui nous rassemble, c'est de défendre ce genre de choses. Donc non, même par rapport à un prisonnier, à un condamné d'office à mort avant même d'être jugé, eh ben non, on ne s'assoit pas sur le règlement. Eh ben non, on ne trahit pas effectivement les causes qui nous font venir aux États-Unis. Et je défendrai Monsieur Machin, dont j'ai oublié le nom, et qui est donc cet espion russe. Voilà commence le film, et j'ai trouvé la remarque très intelligente. Et dans la scène, le représentant de la CIA se trouve très bête et il n'a aucune réponse à fournir. Et après, dans le film, là, je vous passe sur l'action, mais il y a des scènes qui se passent en fait à Berlin-Est, parce que les négociations ont lieu à Berlin-Est, capitale de la République démocratique allemande, qui a maintenant disparu. Et en fait, ça se passe au moment de la construction du mur de Berlin. Et on voit des scènes, effectivement, qui sont des scènes de reconstituer la construction du mur. Et on voit comment, en fait, on empêche les gens. Alors, les gens cherchaient à fuir, les ressortissants de l'Allemagne de l'Est cherchaient à fuir à l'Ouest pour essayer de retrouver un minimum de liberté et de démocratie. Et on voit comment les gens, effectivement, on les empêchait de circuler, on les abattait, etc., pour ceux qui voulaient quand même franchir le mur en construction ou après. Et il y a plusieurs scènes comme ça. Et ça m'a fait penser, moi, au niveau de ma participation, mon militantisme à Amnesty, ça m'a fait penser à des choses qui se passent actuellement en Europe. Parce que bon, les murs à l'Est, ils ont un petit peu, entre guillemets, disparu, du moins certains. Celui de Berlin, heureusement, s'est cassé la figure. Mais on est en train d'en construire un maximum à l'heure actuelle, que ce soit en Israël ou ici en Europe, en Slovaquie, si je ne me trompe pas, en Hongrie, etc., etc. On remet des barbelés partout, on empêche à nouveau les gens de circuler, à croire qu'effectivement, on a un peu de mal à comprendre que tout ça, ça sert absolument à rien, et surtout pas aux buts qui sont officiellement affiché. Alors, je vais vous lire juste le début d'un article que j'ai lu hier et qui tombe à point, qui n'est pas un article d'Amnesty, mais qui est un article qui est paru dans Le Monde Diplomatique. C'est une de mes références principales, j'en ai déjà parlé. Et là, ça pourrait être tout à fait un article, un dossier. C'est en vente actuellement en kiosque, si vous êtes intéressé, vous pouvez lire la fin, parce que je ne vous lirai pas tout. Mais c'est un dossier qui aurait très bien pu être signé par Amnesty. Et ça parle effectivement des mesures qui sont prises à l'heure actuelle en Europe par rapport à la répression, entre guillemets, anti-migrants. Alors ça commence comme ça. Découverte de 71 cadavres en décomposition dans un camion en Autriche. Et moi devant la photographie d'un enfant syrien échoué, parmi beaucoup d'autres, sur une plage turque. Plusieurs drames ont émaillé l'année écoulée, semblant déclencher une prise de conscience collective avant que l'intérêt se porte ailleurs. Les dirigeants politiques se sont indignés, puis ont incriminé les passeurs. Le ministre de l'Intérieur français, M. Bernard Cazeneuve, a annoncé un combat sans merci contre les filières de la traite des êtres humains, tandis que son homologue allemand, M. Thomas de Maizière, promettait de lutter contre les bandes de passeurs criminels qui font des affaires avec la misère humaine. Les passeurs constituent des coupables idéaux, mais ils profitent simplement du fossé qui se creuse entre les voies légales d'immigration en Europe et la très forte demande d'immigration, notamment au Proche-Orient et en Afrique. Les frontières européennes ne sont pas fermées à l'immigration. En 2013, par exemple, les 28 États membres de l'Union ont accueilli légalement plus de 1,5 million d'étrangers extra-communautaires. Chaque État décide de l'ampleur de ce flux en fonction de la conjoncture économique, de la situation démographique ou encore de la coloration politique du gouvernement. En France, 209 782 titres de séjour ont été délivrés en 2014 au titre du regroupement familial à des étudiants, des travailleurs qualifiés, des saisonniers ou encore des réfugiés. Soit seulement 13 000 de plus qu'en 2010. Entre-temps, plusieurs pays du Proche-Orient et de l'Afrique ont pourtant sombré dans des guerres civiles qui ont jeté sur les routes des millions de personnes. Dans l'impossibilité d'obtenir un visa, nombre d'entre elles franchissent illégalement les frontières européennes. Pour cela, elles doivent se cacher dans des camions, trouver des lieux d'hébergement provisoire, traverser la Méditerranée sur des esquifs clandestins, obtenir de faux documents, soudoyer des fonctionnaires corrompus. Autant d'opérations qui requièrent l'intervention de réseaux organisés. Depuis 25 ans, l'Union européenne a multiplié les dispositifs pour barrer la route à l'immigration clandestine. Base de données commune sur les polices européennes, création en 2000 d'un fichier d'empreintes digitales et lancement en 2005 de Frontex. On a déjà parlé de Frontex ici. L'Alliance européenne chargée de surveiller les frontières extérieures à grand renfort d'hélicoptères, de drones, de navires militaires, de lunettes de vision nocturne et de détecteurs de battements cardiaques. D'après les calculs du projet The Migrant Files, depuis 2000, l'immigration clandestine vers l'Europe a généré un chiffre d'affaires d'au moins 16 milliards d'euros pour les réseaux de passeurs. En 14 ans, les États membres de l'Union ont dépensé 11 milliards d'euros pour expulser des sans-papiers et au moins 2 milliards pour renforcer leurs 14 000 kilomètres de frontières extérieures. Ces chiffres restent très modestes comparés aux moyens mobilisés aux États-Unis pour sanctuariser leur territoire. 18 milliards de dollars par an, essentiellement concentrés sur les 3 140 kilomètres de frontières avec le Mexique, où a été érigé un mur haut de 5 mètres, garni de 1 800 tours de surveillance, et derrière lui s'activent 20 000 agents de sécurité, soit un tous les 150 mètres. Et là, ça commence effectivement à me rappeler Berlin-Est. Le politiste américain Peter Andreas a démontré que le perfectionnement des dispositifs de contrôle frontalier aux États-Unis avait augmenté le coût et la durée des voyages, le prix des faux papiers et les fonds nécessaires pour corrompre un fonctionnaire. Tout cela a entraîné une criminalisation croissante des réseaux de trafic de migrants qui, peu à peu, se confondent avec ceux du trafic de drogue. Voilà, donc ça c'est le début de l'article. Si ça vous intéresse, allez acheter Le Monde Diplomatique. L'article est très très bien étayé et ça montre bien qu'effectivement que tout ce qu'on décide officiellement va à l'encontre de tous les discours officiels qui nous sont, assénés à longueur de temps dans les médias. Voilà, donc c'était un peu mon petit coup de gueule du moment. Et puis tiré d'un film de Spielberg, comme fois le cinéma de Spielberg, ça mène à tout. Mais c'est un bon cinéaste, hein, Spielberg, de toute façon.
Le film, c'est...
Et ça s'appelle Le Pont des Espions. Il passe encore à Évreux. Enfin, dépêchez-vous, ça doit être les dernières séances, je pense. Mais il passe encore à Évreux. Et Tom Hanks, qui est un comédien que j'aime bien. Le rôle de l'avocat, lui, va comme un gant. Franchement, il est fait pour ça, quoi. Et le film est très agréable à regarder et encore une fois très intelligent sur les messages qu'il laisse passer. Voilà, on va changer complètement de sujet. Je pense qu'il y avait Patrice qui voulait vous parler de... Ah oui, on avait dit qu'on faisait une pause musicale tout de suite. Il y a Patrice qui me montre que je me suis déjà trompé sur le conducteur. Donc pause musicale.
Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Took the time, no one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over, starting over. Oh,
de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est toujours Amnesty International Évreux. On vient d'écouter John Lennon, un morceau qui s'appelle « Starting Over ». John Lennon, ce n'est pas des chansons de la première jeunesse, hein, c'est années 70-80, mais on va en passer plusieurs ce soir parce que ça passe toujours bien. Ça fait un moment qu'on n'en a pas mis. Puis je rappelle, pour faire notre auto-publicité, que les droits d'auteur des chansons de John Lennon seront reversés à Amnesty International. Donc voilà, acheter des disques, ça nous rapportera de l'argent pour agir pour les droits humains, forcément. Donc maintenant, on voulait parler de droits humains et de la COP21, des droits climatiques, on pourrait dire. Et c'est Patrice et Sabine qui vont vous en parler principalement. Et donc, pour Amnesty International, la remise en cause, et c'est ce qui s'est dit à la COP21, les dérèglements climatiques, voilà, c'est une grande menace pour les droits humains à venir. C'est probablement une des principales qui va être traitée par Amnesty International dans les années à venir. Et Amnesty dit que... Excusez-moi, Patrice, il y a Patrice qui me prend la feuille en même temps. Pour Amnesty International, les droits climatiques ont toujours été du côté des défenseurs de l'environnement. Et préoccupé par l'augmentation des réfugiés climatiques, Amnesty International engage son expertise. Donc c'est Patrice qui va vous en dire plus.
Voilà. On va revenir un peu vers le passé. Port Harcourt, Nigeria, 10 novembre 1995. C'était il y a tout juste 20 ans. Ken Saro Wiwa, écrivain, producteur, défenseur des droits du peuple Ogoni, les habitants de l'État du Niger, esprit libre et orateur hors pair, est pendu avec 8 de ses compagnons dans la cour de la prison. Puis leurs dépouilles sont acheminées sous haute surveillance dans un cimetière de la ville pour être inhumées à la hâte. Leur crime ? Une campagne de défense du territoire Ogoni contre les dégâts écologiques commis par les compagnies pétrolières et notamment Shell dans le Delta, première région productrice de pétrole en Afrique. Ken Saro Wiwa est mort pour avoir dit « L'exploration pétrolière a transformé le pays Ogoni en immense terrain vague. Les terres, les rivières et les ruisseaux sont en permanence entièrement pollués. L'atmosphère est empoisonnée, chargée de vapeurs d'hydrocarbures, de méthane, d'oxyde de carbone et de suie rejetée par les torchères qui, depuis 33 ans, brûlent des gaz 24 heures sur 24 tout près des zones d'habitation. Il le disait et son peuple l'écoutait. Il le criait et son peuple le suivait. Au début des années 1990, des centaines de milliers de Goni participent aux manifestations pour la défense de leur environnement, de leur territoire, de leur dignité. C'en est trop pour un régime à la solde des compagnies pétrolières. À mort les écolos, les rêveurs, les empêcheurs de polluer en paix, les défenseurs d'un autre modèle économique, d'un autre modèle citoyen, d'un autre modèle environnemental, et pas sur un campus de Berkeley ou de Berlin, mais au cœur même de territoires menacés. Les Ogoni du delta du Niger ne voulaient pas d'un développement qui sacrifiait leurs terres, comme les Guarani du Mato Grosso do Sul, c'est au Brésil, comme bien d'autres hommes et femmes à travers le monde. Ken Saro Wiwa a été pendu pour ses convictions écologistes et le combat pour son peuple. Amnesty, qui n'a pas la mémoire courte, ne l'a pas oublié. Dans un rapport publié le 3 novembre dernier, à l'occasion du 20e anniversaire de son exécution, élaboré et co-signé avec le Centre pour l'environnement, les droits humains et le développement, Amnesty dénonce les fausses déclarations de Shell sur le nettoyage des zones polluées dans le Delta. Menée cette année sur 4 sites, l'enquête d'Amnesty révèle que Shell n'a pas mis en œuvre d'approche globale pour nettoyer la pollution. Un sous-traitant de la compagnie pétrolière parle même de dissimulation. Mensonges, dissimulations, manœuvres dilatoires sur le terrain, on est bien loin de la propagande officielle des entreprises et de nombreux pays qui repeignent leurs plafonds en vert et chantent l'aria de l'air pur tout en cachant sous le tapis petite et grande pollution, petite et grande intoxication. espérant que les fantômes de Ken Saro-Wiwa, de ses 8 camarades, de bien d'autres victimes des combats pour l'environnement, sont venus hanter les allées du Bourget à Paris, qui a reçu en grande pompe la COP21 du 30 novembre au 11 décembre, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec comme objectif un accord majeur, un accord entre les 196 participants. Cet accord devra contenir le réchauffement mondial de la planète en deçà de 2 degrés d'ici la fin du siècle.
Mais la COP21 doit aussi mobiliser des fonds pour l'aide au développement, estimé à 78 milliards d'euros par an. Fixer le prix du carbone et soutenir de nombreuses initiatives d'origine publique et privée destinées à préserver l'environnement. Mélange de sommets internationaux aux enjeux cruciaux et de vastes forums citoyens, la COP21 est en soi originale dans le paysage mondial. Ce n'est pas pour autant un gage de réussite sur le plan des résultats concrets comme des utopies à mettre en œuvre. D'autant que l'inquiétude mondiale sur le sujet a désormais gagné la France, pays hôte au climat d'ordinaire tempéré. L'Hexagone voit ses côtes s'éroder à l'ouest, du Finistère à la Charente. Là, les falaises faillissent, ailleurs les plages rétrécissent, à l'est, les glaciers fondent dans les massifs alpins. La fameuse mer de glace rapetisse chaque année, en longueur comme en hauteur. Les tornades d'une violence inconnue ravagent vergers et vignobles, de l'Auxerrois au Périgord. La France coupe le chauffage en novembre et grelotte en mai. Autant dire qu'ici comme ailleurs, la COP21 suscite interrogations et inquiétudes, doutes et espoirs. En outre, si le sujet n'est pas une question centrale pour la COP21, certaines des conséquences du réchauffement climatique, la montée des eaux, la sécheresse, des catastrophes naturelles inédites, le développement du paludisme, mais aussi les craintes sur les rendements agricoles et la pêche et les risques de famine risquent fort de provoquer dans les prochaines années les vagues inédites de victimes climatiques. La France et l'Europe sont confrontées à un afflux de migrants et de personnes déracinées. Il entraîne d'innombrables mesures scandaleuses dans plusieurs pays de l'Union, mais aussi des tensions inquiétantes entre États voisins que des esprits extrêmes attisent à loisir. Or, les experts parlent de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de victimes du changement climatique d'ici 2050. La disparition possible de certains territoires, l'assèchement et la stérilisation d'autres vont donc rendre l'accès aux ressources naturelles et d'abord à l'eau stratégique pour la population mondiale. Il va falloir non seulement économiser mais aussi partager. La Terre est au centre de tous les discours de préparation de la conférence. Et dans un monde d'extrême tension sociale, c'est tout un modèle économique qui est mis en question, voire dénoncé. Dans le même temps, émerge la notion de préservation de notre bien commun, la Terre. Une notion au centre des discours de la plupart de ceux qui préparent ces derniers mois la COP21, comme Nicolas Hulot, le représentant spécial du président de la République, François Hollande. Le pape lui-même, avec l'encyclique Laudato Si, sur la maison commune, y fait écho. C'est aussi une préoccupation pour Amnesty, qui a déjà participé aux précédentes COP, ainsi qu'à la conférence de Rio, plus 20 sur le développement durable en 2012, et qui est représentée à la conférence de Paris, évidemment Amnesty International, organisation issue de la société civile, dont elle est aussi, dans une certaine mesure, un thermomètre, ne pouvait pas rester à l'écart des débats qui traversent la planète et désormais les médias. Dans un document en forme d'argumentaire rédigé début novembre par son secrétariat international, Amnesty International souhaite que les mesures prises pour répondre au changement climatique soient conformes à la norme des droits humains. Elle pointe que le changement climatique est en bonne voie de devenir l'une des plus grandes menaces pour les droits humains et va créer de nouveaux risques pour l'humanité. En outre, poursuit le texte, les décisions prises lors du sommet de Paris auront des conséquences considérables sur les vies humaines et la jouissance des droits humains. Cela inclut le droit à la vie, à la santé, à l'eau, à la nourriture, au logement et à un niveau de vie suffisant. Face à ce grand défi, face aussi à un consensus scientifique qui estime que le temps est compté, Amnesty International, comme organisation chef de file sur les droits humains, a un rôle à jouer en mettant l'accent sur la façon dont la loi et les institutions des droits humains peuvent aider à lutter contre le changement climatique. Sa compétence sur les droits économiques, sociaux et culturels, la responsabilité des entreprises, les droits des femmes, ceux des réfugiés et des migrants, des peuples autochtones. Amnesty l'a déjà mise récemment au service d'organisations comme Greenpeace ou la Commission philippine des droits. En annonçant son intention de s'engager à long terme sur le sujet du changement climatique, c'est d'abord son expertise spécifique et universelle basée sur les droits fondamentaux qu'Amnesty entend apporter. C'est certes un nouveau défi, dicté par l'urgence et fondé sur la conviction que face au changement climatique, la planète doit se préparer à de graves effets négatifs sur les droits humains si les mesures adéquates ne sont pas prises.
Alors, déjà par rapport à cet engagement général sur protection des populations, évolution du climat et droits humains, et qui est donc la position d'Amnesty, il y a déjà quelques points qui ont été adoptés par le mouvement. Il y en a 6 pour l'instant, ce n'est pas limitatif. Il y aura sûrement beaucoup d'autres affinements qui seront proposés dans les années à venir. Mais déjà, donc, on va vous parler de ces 6 points. Alors, ce texte est tiré de la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty. Si vous voulez vous abonner, vous avez le formulaire d'abonnement sur amnesty.fr, sur le site national. Donc, le premier point, c'est le droit à la vie, au logement et à l'eau, à l'assainissement, à la nourriture, à la santé et à un niveau de vie suffisant. Les États doivent structurer leur politique sur le changement climatique afin d'éviter les impacts négatifs sur ces droits et fournir un recours pour les impacts qui seraient inévitables.
Le point numéro 2, absence de discrimination.
Pardon, j'étais plus devant le micro.
Patrice avait raté le micro. Oui.
Absence de discrimination. En lutte contre le changement climatique, les États doivent prendre des mesures efficaces pour mettre fin à toutes les formes de discrimination. Amnesty International se préoccuperait de réduction d'émissions de carbone obtenues au détriment des droits humains.
Le 3, c'est le droit à l'information. L'accès à l'information est essentiel pour lutter contre le changement climatique. Les États doivent promouvoir et faciliter la libre circulation de l'information sur le changement climatique et les mesures prises pour y remédier.
Le point numéro 4 est le droit à la participation. Ce droit est la clé de la réponse au changement climatique. Les États doivent mener une véritable consultation des personnes affectées, les impliquer dans la prise de décision sur les politiques qui affectent leur vie.
Et le point numéro 5, droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Le droit à la protestation pacifique contre les actions ou inactions du gouvernement en matière de changement climatique est une garantie essentielle.
Le 6e point est la responsabilité et droit à un recours effectif face aux actions et aux omissions des États sur les impacts du changement climatique, sur les violations des droits de l'homme. Les victimes doivent avoir accès à un recours effectif.
Voilà, ça c'était une première approche d'un dossier. Je pense qu'on sera amené à en reparler un certain nombre de fois dans les émissions à venir, les mois et les années à venir. Donc Amnesty s'engage du côté, bien évidemment, des droits des populations qui souffrent des modifications climatiques. Et donc, comme vous l'a expliqué Sabine et Patrice, engage son expertise pour essayer d'apporter un complément d'information par rapport et un complément d'action par rapport à toutes ces problématiques. Voilà. Aujourd'hui, comme c'est la fin de l'année, qu'on est donc non pas le 30 décembre, mais le 29, comme on a dit au début, on va passer une deuxième pause musicale. On va passer un peu plus de musique que d'habitude, mais bon, c'est quand même les fêtes, donc faut pas oublier le côté agréable.
J'entends des cris, des pas pressés, j'entends sirènes et pleurs mêlés. vois fumer les horizons autour des toits de nos maisons. J'entends la pierre qui se lacère, j'entends les murs qui se fissurent. Je vois des arbres en flammes et des coulées de macadam. Terre a tremblé, ciel est tombé, neige grise et tendre. Terre a tremblé, ciel est tombé, oh la pluie de cendres. Je vois des larmes de poussière creuser le lit de tes paupières. Je vois cheveux de nos enfants devenir gris, devenir blanc. Je sens ton cœur là dans ma main, serrant la tienne et puis plus rien n'effacera l'image en feu de ton visage au fond des yeux. Terre a tremblé, ciel est tombé, neige grise et tendre. Terre a tremblé, ciel est tombé, oh la pluie de cendres. Devant le grand rein de marée, petits enfants au creux des bras, les grands debout tout près de moi. J'ai peur et puis j'ai tant tremblé en regardant des hommes tomber, rincés par une pluie battante. Je rejoins le cœur des errantes. J'ai peur mais je suis encore là, sur cette terre qui fait de moi une survivante. Terre a tremblé, ciel est tombé, neige grise et tendre. Terre a tremblé, ciel est tombé, oh la pluie de cendre. Terre a tremblé, ciel est tombé, neige grise et tendre. Terre a tremblé, ciel est tombé, oh la pluie de cendre. Oh la pluie de cendre.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux. On vient d'écouter, donc, alors c'était pas une chanson de John Lennon, je pense qu'on en écoutera une dernière tout à l'heure, mais c'est une chanson de Liz Chiral qui s'appelle Pluie de cendres. Voilà, et qu'on a découvert avec vous, parce que je ne la connaissais pas. C'est Sabine qui nous a apporté ce morceau. Donc voilà, maintenant on va vous parler de pourquoi on agit avec Amnesty et à quoi ça sert. En gros, c'est ça le titre du chapitre qui suit, de la rubrique qui suit. Et c'est surtout Sabine et Patrice qui vont vous en parler. Et on va conclure par, je vous disais tout à l'heure, par 12 bonnes nouvelles qui se sont égrenées tout au long de l'année écoulée. Voilà.
Oui, alors nos camarades belges intitulent « J'écris, donc ils sont ». J'ai trouvé ça assez bien. Nous, c'est signé pour résister.
Voilà. Quand Sabine parle des camarades belges, c'est la section belge Amnesty, francophone d'Amnesty, bien sûr.
Amnesty Belgique, ouais, qui nous envoie pas mal de pétitions.
Je vous rappelle
qu'il y a
75 sections d'Amnesty à travers le monde.
Ouais. Alors, comme c'est en français, c'est vrai qu'ils envoient les lettres déjà faites. Donc, pour les gens qui veulent aider rapidement, en 3 secondes, une pétition est signée. Et le comptage, peu importe de quel pays ça part, le travail est le même. Donc, écrire, signer, tweeter, ça sert à quelque chose. Eh bien oui, ça sert à quelque chose. Et on a 3 courriers là, dont une Imène tunisienne qui a été rencontrée à sa libération et qui a écrit à 25 ans « Le désir de vivre libre est plus important que la peur ». C'était mon cas en 1998, dans la Tunisie terrorisée de Ben Ali, avant d'être arrêtée pour avoir manifesté pacifiquement. On m'a battue, violée, privée de sommeil. torturés de mille et une façons, alors que des apprentis tortionnaires observaient pour apprendre. Pendant 15 mois, j'ai vécu l'enfer. Mais il y a eu ce jour où on m'a appris que des milliers de sympathisants d'Amnesty avaient écrit des lettres en ma faveur. Ce fut comme une première libération. Enfin, je voyais un filet de lumière au fond de ma cellule. Je n'étais plus seule. Des personnes comme vous me le confirmaient. Puis un jour, j'ai été libérée grâce à cette incroyable mobilisation. Vous savez, à partir de ce moment, Amnesty est devenue une partie intégrante de mon identité. Mon histoire n'est pas exceptionnelle, elle arrive malheureusement à des milliers de personnes. De tout mon cœur, je leur souhaite de ne pas subir ce que j'ai subi il y a 16 ans. Je leur souhaite aussi de voir leurs conditions de détention s'améliorer et d'être libérées grâce à leur action. Croyez-moi, leur message d'espoir pouvait tout changer pour elles et pour eux. Mon nom est Imène Derwich. Je vis maintenant au Québec et je suis la preuve vivante qu'avec Amnesty, écrire, ça libère. Donc, des personnes, ça touche des personnes parfois à l'histoire secrète. Que dire de plus ? C'est bien que le cas d'Imène, comme celui de milliers de personnes pour qui nous avons écrit et agi depuis des années, est rarement à la une des journaux. Ce sont des personnes dont l'histoire est presque secrète. Ce sont des activistes qui se battent pour les autres, des militants syndicaux, des journalistes, des militantes pour les droits des femmes, qui paient le prix lourd pour leur engagement. Parfois, elles étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. En attendant, elles sont jetées dans des geôles immondes, torturées, violées, parfois condamnées à mort, sans même un procès. Un blogueur saoudien, Raif Badawi, s'est vu condamné à 1000 coups de fouet pour avoir donné son avis. Jugé presque en cachette, plus d'un million de signatures ont été collectées en sa faveur. Des manifestations ont eu lieu depuis plus d'un an devant des dizaines d'ambassades de ce pays partout dans le monde. Son cas, grâce à l'opiniâtreté des citoyens qui ont accepté de consacrer un tout petit peu de leur temps à écrire pour lui, est devenu la sortie de l'anonymat et les coups de fouet ont été arrêtés après sa première séance. Bien sûr, on ne libère pas d'un tweet tous les prisonniers d'un pays, mais nous aidons en tout cas les personnes dans leur prison à survivre et parfois à avoir de meilleures conditions de détention. On leur signifie qu'elles ne sont pas seules. Et c'est cela, la solidarité internationale. Des gens ordinaires prêts à agir quand les chefs et des gouvernements ne respectent pas les droits humains. Gardez le cap. Il y a 5 ans, le 14 décembre 2010, le belgo-marocain Ali Arras était extradé par l'Espagne vers le Maroc. Malgré le risque de torture qu'il encourait sur le territoire marocain, détenu au secret et torturé, il a ensuite été condamné à 12 ans de prison pour des faits qu'il nie avoir commis et uniquement sur la base d'aveux qui lui ont été extorqués sous la torture par les autorités marocaines. Il purge aujourd'hui sa peine de prison à la prison de Salé 2. Et il a écrit une lettre, a été victime de mauvais traitements et a fait part d'une lettre aussi pour témoigner de l'aide et le soutien et des actions d'Amnesty et des gens qui signent les pétitions et qui agissent.
Je vous lis quelques témoignages de sa part. Les journées sont interminables, mais je tente de garder le cap pour ma famille, pour moi. J'aimerais tellement les revoir, mes parents, mon épouse, ma fille que j'aime tant. Ils me manquent tous tellement. Je me retrouve toujours seul dans cette cellule parce que je suis détenu sous un régime de haute sécurité qui implique mon isolement permanent. Il n'y a jamais rien pour se distraire. Pourtant, j'arrive à vivre tout en espérant le meilleur que je puisse avoir dans cette prison. L'appel téléphonique à ma famille, entendre leur voix, m'assurer qu'ils vont bien, échanger des rires avec eux, c'est mon oxygène. Puis il y a les quantités de courriers que je reçois de partout grâce à Amnesty International. C'est mon baume au cœur, mon énergie. Les journées sont interminables, mais tant que je suis conscient, je prends le dessus et je résiste à tout, aux menaces, aux humiliations, aux insultes et même aux mauvais traitements. Les parties les plus pénibles sont les nuits. La nuit dernière, comme de tas d'autres nuits, je me suis réveillé en sueur à cause d'un cauchemar. Il était 3 heures du matin. Ces sursauts provoqués par frayeur et angoisse sont habituels. Ils m'obligent à me lever et à faire des va-et-vient le long de ma cellule. J'ai du mal à marcher, mais je me suis forcé. Je suis encore sous le traumatisme dû à la torture et au mauvais traitement vécu depuis bien trop longtemps qui perdure. La journée arrive à surpasser mes peurs, mais pendant mon sommeil, mon subconscient prend le dessus. Et contre cela, je ne sais rien faire. Bon, j'arrive à une petite conclusion. Et si j'avais un message à faire passer au monde entier, ce serait le suivant. Vous qui jouissez d'une liberté totale, vous qui n'avez pas idée de ce que serait que de la perdre, vous qui préférez peut-être l'ignorer, vous qui pensez que cela n'arrive qu'aux coupables, détrompez-vous, je suis un homme innocent et me voilà pourtant. Prenez quelques minutes pour encourager et soutenir ces défenseurs des droits de l'homme et leur travail. Ce travail qui permet à des personnes comme moi de tenir bon et de garder espoir, de ne jamais nous sentir seuls. Quand on est accompagné, on a une capacité à résister, à dénoncer ce qui reste incompréhensible pour beaucoup et surtout pour ceux qui nous soumettent à ces conditions inhumaines. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Je n'oublierai jamais ceux qui me soutiennent. Ali Arras de la prison de Salé 2 au Maroc.
Alors, il y a aussi Shokan qui nous dit « Vous êtes devenu ma force et mon énergie ». Amnesty a recueilli énormément de signatures dans le monde appelant à la libération de Mahmoud Abou Zeid, dit Shokan, qui est un photographe, journaliste égyptien, qui devait être jugé le 12 décembre d'ailleurs. Il a écrit une lettre de remerciement à tous les sympathisants qui demandent sa libération. Il est torturé, maintenu en détention provisoire depuis plus de 2 ans. Ce qui est complètement contraire au droit égyptien comme au droit international relatif aux droits humains. Arrêté le 14 août 2013, alors qu'il photographiait une des pages les plus sombres de l'histoire récente de l'Égypte, la dispersion violente par les forces de sécurité du sitting de Rabat al-Adayeweya au Caire, et qui s'est soldée par la mort de plus de 600 manifestants en une journée. Plusieurs charges ont été retenues contre lui et il encourt la réclusion à perpétuité. Amnesty International considère que ces charges sont fabriquées de toutes pièces et motivées par des considérations politiques, visent à punir ce journaliste pour avoir photographié la violence des forces de sécurité en cette sombre journée. Amnesty International estime que Mahmoud Abou Zeid a été arrêté et incarcéré pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression et qu'il est à ce titre un prisonnier d'opinion. Il faut le relâcher immédiatement et sans condition. Et les poursuites ouvertes contre lui doivent être abandonnées. Il devrait être libre et non pas en train de languir en prison tandis que sa santé se dégrade. Il souffre d'une hépatite C et privé de soins médicaux, à la tristement célèbre prison de Tora au Caire. Sa lettre, dans quelques jours, je serai enfin fixée sur mon sort, mais je ne sais pas très bien ce que je ressens. En tout cas, je n'ai absolument pas l'impression qu'il s'agit du jour où j'obtiendrai justice. Je ne veux pas vous décevoir, j'essaye seulement d'être réaliste. Dans mon pays, nous ne connaissons plus la signification de ce genre de mots. Bien sûr, après plus de 850 jours, dans un trou noir, sans équité ni justice, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Tout ça parce que je faisais mon travail de photographe. Je suis en prison sans même savoir pourquoi. Je suis navrée de vous dire, la désespérance s'est emparée de moi. C'est le nouveau moi. J'essaie cependant de résister à ma nouvelle identité grâce à vous et seulement à vous, les personnes et les sympathisants qui restaient à mes côtés. Vous continuez à me donner la sensation que je ne suis pas seule. Vous tous êtes devenus ma force et mon énergie. Et sans vous, je ne peux pas traverser ça. Je veux vous faire part de mon amour et de mon respect profond ainsi que de ma reconnaissance pour tout ce que vous faites pour moi. J'ai tellement de chance d'avoir des gens aussi gentils dans ma vie et je suis vraiment honorée de vous compter parmi mes amis. Continuez à crier, le journalisme n'est pas un crime. 1er décembre 2015 à la prison de Tora, Shokan. Voilà, ça, il y en a plein, des courriers, des lettres de remerciement, il y en a des centaines qui arrivent. Et c'est vrai que bon,
c'est pour ça que notre
signature a du pouvoir et qu'il faut continuer.
C'est pour ça qu'on agit tout au long de l'année, tous les jours. Et
C'est pour ça qu'on est aussi à Principe Actif, pour en parler, bien évidemment. Voilà. Et donc, l'enchaînement est très facile. Là, maintenant, on va vous dire très rapidement, parce que l'heure tourne, mais très rapidement quand même, donc, ces fameuses 12 bonnes nouvelles de l'année 2015. Je vais commencer, si tu ne vois pas d'inconvénient, Patrice. Donc, bon, voilà, c'est une toute petite phrase à chaque fois. Par rapport aux migrants en Europe, vous avez déclaré, c'est au public en général que s'adresse Amnesty. C'était des informations répertoriées par Amnesty, bien sûr. En Europe, vous avez déclaré « Bienvenue aux réfugiés ». De la Grèce à l'Allemagne, des bénévoles unissent leurs forces pour aider les réfugiés et les migrants qui arrivent à se procurer de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux, comblant ainsi les brèches béantes du système d'asile de l'Union européenne, tandis que les dirigeants européens s'échinent à trouver des solutions. Deuxième bonne nouvelle.
Le docteur Tung Han a été libéré. Après plus de 2 années de travail, de pression et d'envoi de lettres par les sympathisants d'Amnesty International, le docteur Tung Han, dirigeant communautaire au Myanmar, a été remis en liberté en janvier. Il avait été condamné à 17 ans d'emprisonnement après avoir tenté de calmer la foule lors d'émeutes en 2012. La Commission des droits humains du Myanmar a indiqué que vos lettres l'ont conduit à se pencher sur le cas de Tung Han.
Les charges retenues contre Claudia Medina, victime de torture, ont été abandonnées. En février, les dernières charges qui étaient retenues contre Claudia Medina ont été abandonnées au Mexique. Cette Mexicaine avait été torturée et contrainte à faire de fausses déclarations en 2012. Des militants d'Amnesty International dans le monde entier ont agi en sa faveur dans le cadre de la campagne Stop Torture.
Alors, quatrième bonne nouvelle, une avancée historique pour les droits des personnes transgenres en Norvège. En avril, le gouvernement norvégien a déclaré qu'il allait modifier la loi pour les personnes qui veulent changer de genre en regard de l'état civil. Cette annonce est intervenue à la suite de la campagne que nous avons menée en faveur d'une femme transgenre, John Janet Sutland-Remo, pour qu'elle puisse changer de genre à l'état civil sans traitement médical obligatoire.
Cinquième. Un revers pour la surveillance de masse aux États-Unis. La surveillance de masse pratiquée par le gouvernement des États-Unis sur les communications a connu un revers de taille le 7 mai, lorsqu'une cour d'appel a estimé que la collecte de masse de données téléphoniques par l'Agence nationale de sécurité, la NSA, des États-Unis était illégale. Plus de 100 000 personnes ont signé notre pétition « Un follow me », demandant au gouvernement d'interdire la surveillance de masse.
Omar Kader a remis en liberté. Il a été remis en liberté après 12 années d'emprisonnement, dont la plupart dans le triste, célèbre camp de Guantanamo. Omar Kader n'avait que 15 ans quand l'armée américaine l'a capturé en Afghanistan. C'était en 2002. Des militants d'Amnesty International dans le monde entier ont mené campagne pour obtenir sa libération.
Alors, septième bonne nouvelle, Moses Akatunga gracié. Au Nigeria, le 28 mai, Moses Akatunga, un détenu condamné à mort, c'était pour le vol d'un téléphone portable, je rappelle, a été gracié après 10 années de détention. Il avait été torturé pour qu'il avoue un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Plus de 800 000 militants ont envoyé des lettres pour demander justice.
Le 8e. En Égypte, libération de journalistes d'Al Jazeera. Mohamed Fahy et Barer Mohamed, journalistes travaillant pour Al Jazeera, ont été libérés en septembre dans le cadre de la mesure de grâce accordée à 100 personnes par décret présidentiel. Ils avaient été arrêtés en 2013 et déclarés coupables avec leur confrère Peter Grest d'avoir diffusé de fausses nouvelles.
La 9e bonne nouvelle, au Vietnam, la blogueuse Ta Phuong Thanh a été libérée. Elle était militante, blogueuse et militante du droit à la liberté d'expression. Elle a été remise en liberté en septembre après avoir purgé 4 des 10 années d'emprisonnement prononcées contre elle. Elle avait été déclarée coupable de propagande contre l'État.
Le 10e cas, vous en avez déjà parlé. Pour nous, c'est symboliquement très important parce qu'on s'était très engagé pour lui. Shaker Hammer a été libéré du centre de détention de Guantanamo. Shaker Hammer a été libéré du centre de Guantanamo où il était détenu sans inculpation ni jugement depuis 13 ans. Il a fait partie des premiers détenus envoyés dans ce camp en 2002 et il était le dernier résident britannique encore détenu à Guantanamo. Les militants d'Amnesty International ont mené campagne en faveur de sa libération pendant plus de 10 ans. Quand on vous disait qu'Amnesty ne lâche jamais.
11e bonne nouvelle. Le militant Philippe Karma, enfin libéré en Indonésie. En Indonésie, le militant Philippe Karma a été libéré de prison en novembre. Il a été emprisonné pendant plus de 10 ans pour avoir brandi un drapeau de mouvement indépendantiste papou lors de rassemblements politiques en 2004. Les sympathisants d'Amnesty International ont mené une longue campagne pour obtenir sa libération. Ils ont notamment envoyé 65 000 messages de soutien lors de la campagne « Écrire pour les droits » en 2011.
Et le 12e cas, libération de 2 victimes de torture au Mexique. Dans le nord du Mexique, 2 victimes de torture ont été libérées à quelques heures d'intervalle. En décembre, Adrián Vázquez, père de 4 enfants et chauffeur de bus, libéré plus de 3 ans après avoir été arrêté et torturé par la police de l'État et accusé d'être un narcotrafiquant de haut niveau. Christelle Pigna, 25 ans, mère de 2 enfants, a été libérée plus de 2 ans après avoir été arrêtée, rouée de coups et soumise à des sévices sexuels pour qu'elle avoue des actes d'extorsion.
Voilà. Et en fait, c'est comment dire, c'est un 13e cas pour 12. Une dernière information, c'est des pays qui ont aboli la peine de mort. Donc, en 2015, l'année écoulée, Madagascar a aboli la peine de mort pour tous les crimes. Fidji a fait de même en février. Le Suriname, état de sud-américain, a également supprimé la peine de mort dans sa législation. Et enfin, le dernier qu'on a appris très récemment, c'était il y a quelques semaines, la Mongolie a aboli définitivement la peine de mort. Voilà. Donc ça, c'est toute une série de bonnes nouvelles pour l'année 2015. On va écouter quelques minutes de musique très vite parce qu'on a encore une information. Je voulais vous parler longuement de la Syrie. Je vais vous en dire juste quelques mots. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va écouter maintenant John Lennon. Donc de retour sur antenne de Principe Actif, Amnesty International Évreux, on vient d'écouter une belle chanson dédiée à l'amour des femmes de John Lennon qui s'appelle Woman. Et je trouvais que c'était un bon titre pour terminer l'année. Donc voilà, je voulais vous parler longuement de la Syrie, de la Russie, pas de la Syrie, de la Russie. Je vais vous en parler en fait de quelques mots. On reprendra le dossier beaucoup plus longuement la prochaine émission, il n'y a pas de souci. C'est simplement pour vous annoncer, si vous voulez nous aider, vous avez la possibilité. Amnesty International donc, a adopté un prisonnier qui s'appelle Sergueï Grivov, qui est un militant pour la démocratie en Russie, qui actuellement purge une peine de 4 ans de prison. Il a participé le 6 mai 2012 à une manifestation contre la réélection de Vladimir Poutine sur la place Bolotnaya. Il a été accusé d'avoir malmené la police, enfin, etc. Tout ça, c'était entièrement inventé. Enfin, on a tout un dossier qui le prouve. Actuellement, donc, il a été condamné le 24 février 2014 à 4 ans de prison dans un centre de détention en conditions particulièrement difficiles. Donc, nous demandons bien évidemment sa libération immédiate, l'abandon des lois qui permettent ce genre de décision en Russie, mais ça, on vous en reparlera quand je reprendrai le dossier la prochaine fois, plus longuement. Et ce que vous pouvez faire, c'est comme c'est l'époque des fêtes. Et c'est ce que sont en train de faire les militants d'Amnesty à Évreux. On lui envoie des messages de soutien. Il les reçoit dans sa prison. Donc c'est en russe, mais on vous enverra le texte traduit en russe. Vous inquiétez pas. Donc c'est des messages de soutien très simples qu'on lui envoie en ce moment. Il y a 3 exemples. C'est « Nous pensons à vous et nous battons pour votre libération ». Premier message. « Nous vous soutenons et souhaitons que vous soyez libérés rapidement ». Deuxième message. « Ou nous sommes avec vous ». Troisième message. Donc, si ça vous intéresse d'envoyer ces messages-là par la poste auprès de Sergueï et également envoyer la copie, bien sûr, aux autorités russes, comme on le fait à chaque fois, vous nous envoyez vos coordonnées sur notre mail. Je vais vous le rappeler. C'est amnesty, amnesty.evreux@gmail.com. Vous nous envoyez votre mail. On vous renvoie l'action toute faite avec les adresses et les textes en russe. C'est 3 textes très simples en russe. Et vous l'envoyez, vous signez de votre nom, vous l'envoyez. Et c'est des messages qui sont fondamentalement importants. Ça, on vous l'a déjà dit, mais c'est vrai. Fondamentalement importants pour le moral des gens qui les reçoivent. Et ça leur permet effectivement d'endurer leur peine de prison, aussi injuste soit-elle, de façon très différente quand ils se savent soutenus de l'extérieur. Donc voilà, il s'appelle Sergueï Grivov. On l'a adopté, entre guillemets, ici à Amnesty Évreux, et on combattra pour lui jusqu'à temps qu'il soit libéré, ce qui ne manquera pas d'arriver, on en est sûr, à l'avance, mais on ne sait pas quand. Voilà. Donc ça, c'était la première information. On y reviendra dans les prochaines émissions. Deuxième information, c'est notre actualité immédiate. Donc, au mois de janvier, on a déjà 2 rendez-vous. Si vous voulez nous retrouver, on sera le mardi 26 au Cadran, en soutien et en collaboration avec la scène nationale pour une pièce qui s'appelle « Barbecue ». Et qui parle d'un dossier qui a été longuement sujet d'Amnesty aussi, qui s'appelle « Les disparus de Ciudad Juarez ». Sabine, tu m'excuseras pour l'accent que je n'ai pas. Et on en parlera en discussion avec les comédiens après le spectacle. Et donc, c'est le mardi 26 janvier prochain au Cadran, à 20h30. Et nous, on aura un stand aussi, on sera présent sur place. Et le mardi 30 janvier, toujours avec la scène nationale, là, on fait la rentrée 2016 avec eux, on sera participant à la fête de la soupe. Alors là, c'est festif. On vient, on apporte de la soupe, on donne de la soupe à goûter aux gens et on fait la fête. C'est le mardi 30 janvier. C'est aussi au Cadran, à l'invitation avec la scène nationale. Voilà, ça, c'est nos deux rendez-vous publics pour la rentrée. Bien sûr, nous continuons nos actions, bien évidemment. Et la prochaine émission de radio, ce sera aussi le mardi 26. Et comme on est très fort, on sera à la fois au Cadran et à la radio. On ne vous explique pas comment, c'est un mystère. Voilà. Donc, bonne fin d'année à tout le monde. On laisse la place donc au laboratoire et à Manu. Il m'excusera d'avoir oublié son prénom tout à l'heure. À Manu. Et on se retrouve, nous, le 26 janvier pour la prochaine émission.
Allez, bonne fin d'année. Continuez de résister. Signez, signez, signez.
Bonne année à tous.
Bonsoir, bonne année à tous et à toutes.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.